pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue. Pour chaque projet d'infrastructure, qu'il s'agisse d'un aéroport, d'une autoroute ou d'une usine, il faut compenser, recréer de la biodiversité à proximité. Mais peut-on vraiment réparer des atteintes faites à la nature? Peut-on détruire pour mieux protéger ailleurs? Nous parlerons de cette idée de compensation écologique très contestée, on l'entendra, dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, et si nous vous embarquions avec nous pour un tour du monde? Un tour du monde des initiatives pour l'environnement, par leurs projets ingénieux, leur audace, leur engagement en faveur d'une écologie solidaire. Ils et elles font bouger les lignes.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Un cinéma qui se déplace à vélo, il fallait y penser, c'est l'idée pas si folle de notre invité Vincent Orion. Baptisé Cinécyclo, son association propose des projections de films en plein air, de village en village. Il a parcouru les routes du Sénégal pendant plusieurs mois avec son vélo et pas n'importe lequel puisque le sien génère de l'électricité. Un cinéma itinérant et sportif puisque les spectateurs pédalent les uns après les autres pour alimenter le projecteur. Et sur la toile, on met en lumière les initiatives menées par des associations locales pour préserver l'environnement. Bonjour Vincent Orion.
Bonjour, merci de l'invitation.
Comment vous est venue cette envie de cinéma itinérant et solidaire à vélo?
Alors déjà, c'est vraiment une envie très égoïste de voyager et faire du sport, donc faire du vélo. Mais finalement, l'égoïsme a laissé place un petit peu à la solidarité. Donc là, l'idée, c'était de partager une de mes passions qui était celle du cinéma. Vélo plus cinéma. Maintenant, il fallait trouver un petit peu la manière de générer l'électricité, parce que si je commençais à être en itinérance, forcément, ça voulait dire qu'il fallait trouver une source d'énergie. Donc c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée de générer l'électricité à partir d'une dynamo et des cyclistes qui pédalent dessus.
Et comment ça fonctionne? Alors à quoi ressemblait votre vélo?
Alors c'est un vélo cargo, donc c'est un vélo utilitaire fabriqué en France. Et l'idée donc, c'est de transporter à l'avant de ce vélo tout le matériel de projection dans une caisse qui au total faisait 35 kg avec le projecteur, la toile, les enceintes. Et en fait quand j'arrivais dans un village, je mettais le vélo en mode statique sur une béquille, j'y associais une dynamo et à ce moment-là, quand commençait la projection, j'invitais le public à se relayer les uns à la suite des autres pour permettre d'alimenter tout le matériel.
Et si on ne pédale pas, le film s'arrête.
Exactement, au bout de 2 minutes, il y avait ce petit défi, le film s'arrêtait. Donc c'est un système sans batterie, sans matériaux, on va dire, impactants au niveau de l'environnement. Donc Cinécyclo, c'est un projet à la fois solidaire, mais aussi un projet technologique.
Et l'idée, c'est en fait de projeter des films qui ont trait à l'environnement, qui mettent en valeur, en lumière, des initiatives locales, écologiques.
Exactement, en fait, c'était d'aller à la rencontre d'associations locales qui œuvrent dans leur zone en matière d'environnement et de voir si notre idée, notre système pouvait leur servir dans le cadre de leur mission de sensibilisation.
Vous avez lancé l'association en 2013 et fin 2015, vous êtes lancé donc dans cette aventure. Vous avez alors parcouru le Sénégal, 3000 km au total, c'est ça?
Exactement, oui. Et puis il y a eu quelques très belles rencontres, notamment celle de Yoro Diallo, qui est un jeune Sénégalais, rencontré d'ailleurs grâce à RFI, merci à RFI, lors d'une conférence de presse, et qui est venu finalement pédaler 5 mois avec moi sur le tour du Sénégal.
Et au total, vous avez pédalé pendant combien de temps?
Au total, 6 mois. Donc en gros, il a fait quasiment tout le voyage.
Et vous avez commencé votre voyage en Casamance, au sud du pays.
Exactement, ça a été la première destination. Alors c'était un défi aussi, parce que c'est vrai qu'en termes de sécurité, on m'avait mis en garde sur la Casamance, sur la situation, on va dire, de la Casamance aujourd'hui, mais j'ai pas eu de problème du tout. J'ai été très très bien accueilli par l'ensemble en fait, des populations vraiment sénégalaises, qui me voyant arriver avec un tel projet de partage, ont vraiment apprécié en fait, la démarche.
Et comment se passait une projection? Typiquement, donc vous arrivez avec votre vélo.
Alors il y avait déjà toute une démarche au préalable au niveau des autorités locales, bon, le chef de village entre autres, mais il y avait surtout cette association locale encore une fois qui nous aidait avec une dizaine ou une quinzaine de références dans ces villages-là. Donc quand on arrivait, on était un petit peu attendu quand même. Rencontre avec le chef de village, on prévient la population, on fait un repérage pour accrocher l'écran et donc on fixe une heure, généralement autour de 20h, 21h. À ce moment-là, la majorité du village vient, de 200, 300, 400 personnes même parfois. Et ensuite, ça commence, mais ça peut durer jusqu'à 2h, 3h de projection. Tant qu'il y a du monde qui pédale, on continue.
Ça n'a pas été difficile de trouver des volontaires pour pédaler?
Non, alors c'est vrai qu'au départ, on commençait toujours par un espèce de petit spectacle qui faisait que voilà, on cassait la glace d'une certaine manière. Et en 10 minutes, on était capable de commencer la projection. À ce moment-là, on commençait déjà par un dessin animé sans dialogue, qui était plus pour les enfants, qui étaient les premiers assis vraiment devant l'écran. Et en fait, ils rigolaient tellement qu'à la fin de ce 10 minutes de dessin animé, le public avait doublé, parce qu'ils avaient prévenu le reste du village que quelque chose était en train de se passer. Après, on enchaînait avec quelques films du coup sur l'environnement, et on terminait plutôt avec des films du style Charlie Chaplin, de divertissement, ou alors Binta et la bonne idée de Javier Fesser.
Et les films étaient projetés sur une toile en plein air, donc au milieu de ces villages.
Exactement, c'était souvent tendu entre deux manguiers, ou même dans les branches de l'arbre à palabre. Donc ça faisait partie un petit peu de notre travail d'arriver suffisamment tôt pour repérer où est-ce qu'on allait installer cet écran, puis surtout pour rencontrer notre partenaire, pour savoir quelles étaient les problématiques locales, quels films ils souhaitaient qu'on diffuse, parce qu'on avait plus d'une cinquantaine de films en dialecte qui potentiellement pouvaient répondre à certains de leurs besoins.
En dialecte, donc en bambara, en wolof,
en mandingue, on a eu du poulard, on a eu du diola, on avait à peu près les 7 langues nationales sénégalaises. Alors après, c'était pas évident de trouver ces films. Là, ça a pu se faire vraiment grâce à l'aide de différentes ONG, Purple Feed Production et Access Agriculture, avec lesquelles on espère pouvoir continuer à collaborer.
Et je vous propose d'écouter un extrait d'un des films que vous projetez pendant cette traversée à vélo de régions parfois très rurales.
Pour nous, Nebedaï, on dit l'environnement est au cœur du développement. On est en zone sahélienne, dans une zone où on est très proche du désert, où il pleut que 3 mois dans l'année, et où les quelques forêts sahéliennes qui restent sont en train de disparaître de par l'exploitation du bois.
Ici, c'est la forêt de Sangako. Donc, c'est le nom sur les papiers, mais il y a 14 villages qui sont tout autour de la forêt. Nous, notre rôle, c'est essayer de trouver les moyens pour sauvegarder notre forêt. Parce qu'on a constaté que chaque année, il y a des feux de brousse dans la forêt. Et il faut trouver des solutions.
Ce n'est pas nous, Nebedaï, une petite association qui pouvons obliger les gens à agir. Donc on essaye de conscientiser les gens, de les sensibiliser à travers des cinémas débats, à travers des séances de palabres, à travers tout un tas d'outils de communication pour que les gens se disent « Mais oui, il faut qu'on arrive à changer notre façon d'exploiter les ressources naturelles. »
Donc dans ce film, on entend en fait une association, l'association Nebedaï, qui est une de vos associations partenaires, Vincent Henrion.
Exactement, en fait, pendant la tournée, il y a eu une douzaine de partenaires, dont l'association Nebedaï, qui est basée dans le Ciné Saloum, dans le village de Toubakouta, qui intervient dans une quinzaine de villages autour de cette zone. Et l'idée, donc là, c'était plutôt de diffuser un film qui parlait de la préservation et d'exploitation d'une forêt, et aussi de la valorisation des ressources naturelles, et notamment de la paille que l'on coupe pour éviter la propagation des feux de brousse et que l'on transforme en charbon, histoire de créer une économie circulaire et une économie locale.
Donc vous montrez en fait à travers ce film comment fabriquer du charbon de paille.
Exactement, et puis c'est aussi une possibilité de concurrencer d'une certaine manière le charbon de bois, dont l'utilisation, notamment pour la cuisine, est une des premières causes de déforestation aujourd'hui au Sahel. Donc l'association Nebedaï aussi, c'est...
C'est une association sénégalaise.
Sénégalaise, exactement, dirigée par une équipe qui, alors au début, était un petit peu dubitative à notre arrivée avec ce vélo cinéma, et au bout d'une ou deux projections, ils sont vraiment tombés sous le charme. Et après, ils venaient vraiment à chaque projection pour animer, donc leur donner la parole. Et ça leur a permis, par exemple, de recréer un lien avec des villages qui s'étaient un petit peu désengagés des campagnes de replantation, ou de simplement rassembler les gens pour leur dire, voilà, n'oubliez pas la semaine prochaine, campagne de replantation.
Et quels autres projets écologiques innovants et puis réplicables vous avez mis en avant à travers ces films?
Alors, il y a pu y avoir le foyer amélioré, qu'on a beaucoup diffusé. Il y a eu des films sur l'agroécologie avec le compostage, les pesticides biologiques. Il y a eu aussi l'utilisation du tifa pour faire des toits de chaume. Ça, c'était plutôt dans le nord. Donc, le tifa qui est une plante invasive du fleuve Sénégal, dans la région notamment de Saint-Louis. Donc, c'était beaucoup d'initiatives qui allaient dans ce sens-là.
Et quelle est votre ambition avec cette association, avec ce projet Cinécyclo? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir à votre échelle, évidemment?
Alors, le Tour du Sénégal 2015-2016, c'était vraiment prouver un petit peu l'utilité et le potentiel de cette idée. Maintenant, aujourd'hui, le futur à nos espoirs, c'est que cette idée soit vraiment réappropriée par les Sénégalais, notamment. Et c'est en bonne voie, puisque l'association Cinécyclo Sénégal a vu le jour il y a quelques semaines à peine. Donc l'idée, c'est qu'eux puissent être autonomes pour répondre à des besoins de projection et de diffusion, pour permettre de faciliter l'accès à l'information dans des zones isolées.
Et vous imaginez aussi lancer ce projet ailleurs ?
Alors effectivement, là c'est quasiment de l'ordre du rêve ou de l'utopie, je ne sais pas trop, mais l'idée ça serait de pouvoir répliquer le même concept, donc déjà mener une aventure, on va dire, coup de poing, et qui permet aussi de porter peut-être sous le feu des projecteurs des zones un petit peu plus isolées, et ensuite de dessemer des micro-projets qui peuvent se réapproprier cette idée et ce potentiel. Et là, ce qu'on aimerait bien faire, c'est enchaîner avec l'Amérique du Sud.
En Amérique du Sud. Et on vous souhaite du courage dans cette belle initiative. Merci Vincent Rion, fondateur de Cinécyclo, d'être venu dans notre studio de RFI. Et puis bonne route.
Merci beaucoup, je vous attends sur le vélo.
Les déchets électroniques. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le cofondateur du collectif Emmabuntus. Bonjour.
Bonjour.
Je vous préférerais qu'on vous appelle par votre prénom, Patrick.
Oui, c'est ça.
Votre collectif Emmabuntus collecte des ordinateurs pour les réparer ou plutôt pour les entretenir. Pourquoi cette idée-là ?
En voyant les problématiques d'obsolescence programmée sur les systèmes d'exploitation, et en voulant changer un petit peu ma vie, que je me suis engagé au départ au sein d'une communauté Emmaüs à Neuilly-Plaisance. Et donc j'ai commencé à reconditionner les ordinateurs là-bas en mai 2010.
Il s'agit donc, avec votre collectif, de donner une seconde vie à ces ordinateurs. Comment vous faites ?
Alors c'est très simple, donc on récupère des ordinateurs. Quand on a vérifié qu'ils s'allumaient, qu'ils étaient fonctionnels, on installe avec une clé USB notre système qui s'appelle Emmabuntus, qui est un système d'exploitation GNU Linux. Donc c'est un système libre qui a été développé au départ il y a 30 ans. Et donc depuis, avec des améliorations, et donc toute la communauté contribue pour le développement.
Et où récupérez-vous des ordinateurs en fin de vie ?
Alors les ordinateurs en fin de vie, il y a plusieurs solutions. Au début, nous travaillons avec les communautés Emmaüs.
Emmaüs est une organisation qui vient en aide aux plus démunis.
Oui, en fait c'est un mouvement qui a été fondé par l'abbé Pierre.
Donc vous réparez des ordinateurs, vous mettez en place un nouveau système d'exploitation qui leur donne une nouvelle vie.
Et ensuite, quand on travaille au sein de certaines communautés, c'est les communautés qui vendent ces ordinateurs à des personnes qui viennent chez eux. Et donc après, ça sert de financement pour aider la communauté.
Et ces ordinateurs, donc une fois réparés, sont vendus à bas prix en fait ?
Oui, alors pour vous donner un ordre de prix, ça dépend des ordinateurs. Mais en général, on peut dire que c'est de l'ordre de 80 euros. Ce que l'on voit depuis quelques années, c'est que c'est surtout le système d'exploitation qui vieillit plus vite que le matériel. Et donc, il faut changer le système et leur donner une deuxième vie. Donc,
et l'idée de votre collectif, c'est de réduire la fracture numérique, comme on dit. Alors, à qui ces ordinateurs bénéficient ?
Alors donc quand on travaille au sein des communautés Emmaüs, bon, c'est pour faire les aider à avoir des revenus supplémentaires, mais aussi on peut travailler avec d'autres associations, comme par exemple en France l'association YoVoToGo, où j'étais avec eux ce week-end, où on prépare un projet d'informatisation d'une région du Togo au Nord Togo.
C'est une association française qui vient en aide.
Oui, ça c'est leur projet Togo. En fait, et donc ils nous ont sollicité, nous ont rencontré entre guillemets par hasard sur Internet, sur des réseaux sociaux. Et donc, on les aide dans soit la fourniture d'ordinateurs, on l'a fait l'an dernier, on leur a fourni des unités centrales. On a au total 121 unités centrales qui sont dans des cartons et de l'ordre de 130 écrans plats parce qu'il en manquait là-bas sur place.
Et où vont ces ordinateurs, ces unités centrales, comme vous dites ?
Il y a des lycées, donc il y a eu 4 lycées l'an dernier d'équipés. Et c'est eux qui font la formation et là maintenant sur place. C'est une région au nord du Togo, ça s'appelle la région des savanes, c'est 600 km au nord de Lomé.
Je vous propose justement de découvrir un laboratoire lancé dans le quartier de Djidjolé à Lomé, au Togo. Ce laboratoire s'appelle WeLab, c'est un Fab Lab, comme on dit, ou un incubateur de projets innovants. Et ce WeLab a vu naître l'idée d'une imprimante 3D, la WAFAT, construite à partir de déchets électroniques recyclés. Le fondateur de WeLab, Sename Kofi Agbodjinou, est interrogé par Anne-Cécile Bras.
Alors WeLab, c'est ce que nous avons appelé un espace de démocratie technologique. C'est un lieu dans le quartier ouvert à tous où des jeunes peuvent venir librement développer des projets technologiques, essayer de développer de la technologie très de pointe mais avec des ressources modestes et aussi en rapport avec les spécificités du contexte africain. Et donc une imprimante 3D, c'est une machine qui permet de produire des objets préalablement dessinés avec un logiciel 3D. Donc celle que nous développons, nous, produit des objets en plastique. Donc par accumulation de strates de plastique fondu. Le plus important pour nous, c'était d'arriver à relever ce challenge de produire de la technologie très de pointe, mais dans un espace très modeste. Voilà. On est déjà très content d'avoir fait ça et pour les applications, on y travaille.
Et surtout, elle est fabriquée à partir d'objets recyclés, cette imprimante 3D.
Oui, c'est une machine que AFAT, son inventeur, a vraiment voulu à base de ressources disponibles localement. Et donc, comme les déchets informatiques sont une ressource maintenant pour notre pays,
ouais.
on a décidé d'utiliser ce matériau-là.
Donc régulièrement, il va dans une des décharges près de Lomé et il récupère du matériel pour fabriquer cette imprimante 3D. Donc c'est un moyen de recycler les déchets électroniques et l'objectif c'est d'en fabriquer plusieurs par mois pour les vendre.
Oui, alors on a beaucoup de programmes sociaux qu'on développe, qui sont connectés à ce projet d'imprimante 3D. On a par exemple un programme que nous appelons le 3D Print Educative, qui est dont l'ambition est de faire rentrer l'imprimante 3D dans les écoles et de baser tout un système d'éducation qui s'appuierait sur cette technologie d'impression 3D. La machine est en open source et normalement n'importe qui s'en donne les moyens peut aussi répliquer la WAFAT.
Comment vous voyez cette idée d'imprimante 3D à partir de déchets électroniques recyclés ? Patrick du collectif Emmaubuntus. Ça rejoint aussi votre envie de recycler des ordinateurs ?
C'est une très bonne idée de réutiliser le matériel qui est disponible. Donc nous avons aussi des contacts dans le monde des Fab Labs avec par exemple les gens de Jerry. Donc, qui font aussi du Fab Lab, donc en Côte d'Ivoire, avec le Jerry Clan de Côte d'Ivoire. Alors, pour expliquer un petit peu à vos auditeurs ce que c'est qu'un Jerry Clan, c'est un groupe de personnes qui travaillent au réemploi des ordinateurs sur un projet qui s'appelle Jerry Do It Together. Et ça consiste à faire des ordinateurs de réemploi dans des bidons en plastique. Donc ça peut être très surprenant pour les gens qui n'en ont jamais vu. Il suffit de faire des petits trous dans le bidon aux endroits où l'on désire. Et donc on peut mettre un ordinateur, donc une unité centrale uniquement, dans un bidon.
C'est-à-dire que la coque de cette unité centrale d'ordinateur est remplacée en fait par un bidon en plastique.
Voilà. Donc pour le transporter, c'est beaucoup plus facile puisque vous avez la poignée du bidon, parce qu'en fait, il se referme. D'ailleurs, dans le jerry, donc le bidon, il est réemployé, il n'est pas créé pour faire un jerry. Les bidons, on les a sur place. On utilise du fil électrique, par exemple, pour fixer les cartes mères, de l'élastique pour étendre du linge, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde du réemploi très intéressantes et qui permettent de prolonger le matériel.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce collectif Emmaubuntus. Et dans un instant, dans à peine 3 minutes, nous parlerons de la compensation écologique imposée dans le cadre des grands chantiers ou comment recréer de la biodiversité ailleurs. À tout de suite.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.